des sous et des amants. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Nicolas Dupont-Aignan, député non inscrit de l'Essonne, gaulliste diront les uns, épouvantable souverainiste diront les autres, président du mouvement Debout la République. Alors je vous rappelle le contexte. J'avais mieux découvert Nicolas Dupont-Aignan à l'occasion de l'affaire du traité de Lisbonne. J'avais lu son livre « Le coup d'État simplifié » publié aux éditions du Rocher et j'avais réussi à obtenir un rendez-vous avec lui après le vote sur la révision constitutionnelle lors du congrès du 4 février à Versailles. Mais que m'importait parce que ce que j'avais lu dans son livre était intéressant au-delà des circonstances politiques particulières de février 2008. J'avais rendez-vous avec lui à la mairie de la ville d'Hyères pour une heure d'entretien entre 16h et 17h. Comme il était arrivé un tout petit peu en retard, j'avais négocié la fin de l'entretien à 17h10. À peine fini la première partie d'entretien que vous avez pu entendre la semaine dernière, hop, on a enchaîné sur un autre thème, la droite, les droites. Il est vrai qu'il est plutôt rare d'entendre dans des sous quelqu'un se revendiquant de droite, même si c'est arrivé quand c'était possible. Alors j'en ai profité. 2 fois 10 minutes d'entretien mené tambour battant. Vous aurez le droit de respirer dans 9 minutes avec une pause musicale. C'est parti!
C'est sur l'histoire de la droite. C'est un sujet que je connais pas du tout.
C'est pas grave.
Mais cependant, j'ai un étonnement justement. C'est comment ça se fait que la droite soit devenue libérale? Ça s'est fait par quel biais?
Moi, je crois que c'est différent. Il y a toujours eu une droite libérale. Simplement, il y a eu une parenthèse gaulliste. La droite libérale s'était considérée avec Vichy, comme une certaine gauche d'ailleurs.
C'est clair.
Et en vérité, moi j'ai le sentiment qu'on est à la fin d'un cycle, qui est le cycle de la reconstruction de l'après-guerre. Il y a eu avec le général de Gaulle, allié d'ailleurs aux communistes, allié à des personnalités de tous les horizons politiques, une reconstruction en France, où on a tiré les leçons de l'entre-deux-guerres. Bon. Cette reconstruction... Quoi qu'on puisse penser du général de Gaulle, quels qu'aient été les débats entre la droite et la gauche, il y avait un accord sur ce que j'appelle les fondamentaux républicains du pays. La laïcité, l'indépendance de la France vis-à-vis des États-Unis, le progrès social, un ensemble de valeurs partagées. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fur et à mesure du temps, les valeurs gaullistes sont évaporées à droite. On a perdu le fil de la leçon de l'après-guerre. Par exemple, le pluralisme de la presse. Le fait que la presse et les médias ne devaient pas être aux mains des intérêts. Ils l'ont été dans l'entre-deux-guerres. C'est pourquoi la Libération, d'ailleurs, les journaux ont été collaborationnistes. C'est pourquoi la Libération, d'ailleurs, ils ont été supprimés. Et qu'on a renouvelé les titres, les syndicats, tout le monde. Donc il y a eu une espèce de grand renouveau d'oxygénation dans des circonstances tragiques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, et je crois qu'on est à la fin de ce cycle, et qu'un nouveau cycle est arrivé. Et dans ce nouveau cycle, on a revu la vieille droite libérale conservatrice de l'entre-deux-guerres, comme on a revu la gauche, j'allais dire molettiste, ou la gauche un peu... on revoit ce qui a cessé d'exister. Et il y a toujours eu plusieurs droites et plusieurs gauches. Moi, je me rapproche plus d'une droite républicaine... Certains diraient bonapartiste pour certains côtés. Encore que le clivage même droite-gauche est passé, je crois aussi, de beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait encore une droite et une gauche, il faut qu'il y ait une nation, une démocratie. S'il n'y a plus que des citoyens, des consommateurs, il n'y a plus de citoyens. Donc je crois que déjà, le grand défi de demain, et pourquoi aujourd'hui, qu'on soit de droite ou de gauche, il y a un clivage différent, c'est est-ce qu'on est républicain? Ou est-ce qu'on est supranational, mondialiste? Moi, je crois que à droite comme à gauche, il y a des personnalités aujourd'hui politiques qui disent « Attention, on a joué avec le feu ». Et une certaine gauche comme une certaine droite ont laissé se dilapider l'héritage de la résistance, de la libération, cet idéal, qui était parfois bien évidemment utopique, mais cet idéal de société républicaine qui a quand même donné la croissance au lendemain de la guerre, qui a reconstruit le pays. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités, c'est le sens de l'appel que j'ai signé à Marianne, avec l'hebdomadaire Marianne, cette semaine, il y a beaucoup de personnalités qui disent, attention, avant même de se disputer entre nous, on a des valeurs communes. Et le président de la République, pour ne pas le nommer, qui a été élu sur un projet, aujourd'hui, revient tel qu'il est au fond de lui-même. Un atlantiste, profondément sceptique sur la laïcité française et sur la République, qui est plus proche de Neuilly, sur Seine, qui n'a rien à voir avec la France. Voilà, bon. Et en fait, Chassé le naturel, il revient au galop. Il s'est fait élire sur les thèmes de campagne d'Henri Guénaud, et puis, une fois au pouvoir, au bout de 6 mois, il est ce qu'il est. Il a toujours été favorable à l'OTAN, favorable à Bush, favorable à une société religieuse plus que laïque, et puis voilà. Donc on voit les dégâts maintenant. Moi, je l'ai dit avant, hein, puisque je m'étais présenté face à lui. Il m'a empêché d'avoir les signatures, mais j'ai jamais changé d'avis sur ses convictions profondes, qu'il a dissimulées pour se faire élire. Donc, maintenant, je crois que l'enjeu, c'est de préparer l'après-Sarkozy. Faut être clair. Moi, je crois que l'enjeu, en tout cas, de mon côté, c'est de préparer l'après-Sarkozy et qu'il y a des personnalités qui vont de Bayrou à Villepin, à moi-même, tout à fait capables de préparer autre chose. Et puis, il y a la gauche qui doit se renouveler aussi. Et que tout ça va peut-être former un nouveau paysage politique dans 4-5 ans, beaucoup plus vite qu'on ne le croit d'ailleurs.
Qu'est-ce qui fait que ces valeurs de l'après-guerre ont disparu ? Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand j'étais petite, les valeurs gaullistes étaient encore portées, me semble-t-il.
Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une chose dont il ne faut pas se moquer, et où Sarkozy a raison. Oui, je suis rarement d'accord avec lui, mais là, il a raison. C'est qu'on a, fait une sorte de musée, ces valeurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas su les renouveler et réformer la France. Je prends un exemple du service public. Le service public est devenu la défense des acquis sociaux, entre nous, les plus injustifiés. Bon. Et donc, on a déconsidéré, par exemple, le service public. Un exemple, c'est la SNCF fret. C'est devenu tellement ingérable qu'il n'y a plus de personne qui... Les marchandises passent par la route. Bon, je caricature, parce que j'ai beaucoup de respect pour les cheminots, par ailleurs, qui ont fait une grande réussite, et le TGV. Donc, il ne faut pas caricaturer. Toute la SNCF n'est pas comme ça. Ce qu'Air France serait devenu s'il n'y avait pas eu Christian Blanc, qui a été un grand président d'Air France, qui, à un moment, a dit « Stop, on arrête de... » Vous voyez ? Donc, je crois que le modèle républicain hérité de la Seconde Guerre mondiale s'est encrouté, pour parler franchement. Et qu'on a confondu ce modèle avec... on a confondu toute réforme visant à le réformer avec la destruction du modèle. Et donc, il s'est encrouté. Donc, la France est devenue un pays qui ne s'est pas réformé, c'est-à-dire qui n'a pas su faire les réformes de structure nécessaires. Je pense à l'éducation nationale, par exemple. L'éducation nationale qui s'est complètement encroutée et où on nous explique qu'on apprend à lire aux enfants alors qu'on leur apprend plus à lire correctement et où toute remise sous tension du système est perçue comme une remise en cause de l'éducation nationale, ce qui est absurde. Donc moi je crois qu'il y a eu beaucoup de faiblesses où on a fait croire que finalement ce système il pouvait durer éternellement, on pouvait toujours dépenser plus pour la sécurité sociale, le service public il pouvait marcher comme ça, l'éducation nationale c'était pas grave, si nos enfants savaient pas lire et écrire, que tout ça c'était bien parce que c'est bon pour leur épanouissement. Donc il y a eu, je pense, une dérive laxiste. Et la République c'est une exigence. Et ce laxisme a déconsidéré ses valeurs. Et qu'à un moment, quand le chômage s'accroît, quand les services publics fonctionnent mal, quand l'éducation nationale laisse 20-25% des élèves sans savoir lire à la fin de collège, il y a un moment où les gens perdent patience. Et c'est à ce moment-là où ils font confiance à des gens qui peuvent avoir envie de se servir de ce mécontentement pour préparer une société du tout libérale qui ne me paraît pas bonne non plus. Donc ça, je crois que c'est une explication. La deuxième explication, c'est que le monde a changé avec la mondialisation, avec l'européanisation, et que ce monde est un monde du nivellement par le bas, et que notre modèle social républicain est totalement contradictoire avec l'environnement du monde. Et que la grande difficulté qu'a la France, c'est à la fois de garder son modèle républicain et social, et en même temps, de ne pas être complètement broyé par cette clochardisation générale. Et c'est là où l'aspect européen est essentiel. C'est là où on doit se servir de l'Europe comme d'un bouclier, plutôt que de s'en servir comme un cheval de Troie de la mondialisation. Donc je reviens au débat sur le traité de Lisbonne et toutes les conséquences néfastes de cette Europe supranationale. Donc, et puis vous avez un troisième point, c'est une troisième explication, je crois, c'est, la perte de repères historiques, le showbiz, le média système, le zapping, c'est-à-dire ce déclin du raisonnement face à l'émotion et ce poids du superficiel qui dévaste tout. Cette culture de l'audimat, et qui fait que même si beaucoup de journalistes ont une pensée et ont envie de, ne sont pas des mauvais bougres, loin de là, ils sont dans un système sans fin d'audimat qui interdit de se poser un peu. Et donc on est dans une course médiatique d'images qui interdit aux hommes politiques un peu sérieux de s'exprimer. Il faut être clair. Et donc qui réduit considérablement le champ démocratique. Voilà, alors si vous avez un système qui s'est un peu endormi, des conservatismes, c'est réel, la pression de la mondialisation telle qu'elle est, le système des médias, bah, vous avez une forte contrainte. Et tout ça fait exploser, et puis la qualité des hommes peut-être aussi. Hein. Voilà.
Des sous et des hommes, toujours en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan, député non inscrit de l'Essonne et président du mouvement Debout la République. Il nous restait moins de 10 minutes. Souverainisme, mondialisation, hop, on se jette à l'eau.
Je pense que je vais peut-être me faire vilipender par mes auditeurs parce que j'aurais invité un souverainiste. Parce que c'est maintenant, c'est le mot pour...
Pour me caricaturer.
Enfin, vous ou Chevènement, par exemple.
Oui, bien sûr. Chevènement, à un moment, avait eu une belle expression à propos des guignols de l'info. C'était, je crois, au moment de la Corse ou à l'époque de sa candidature présidentielle. Il avait parlé de meurtre symbolique. On présentait Chevènement comme un ressuscité, puisqu'il avait eu son fameux accident, et comme le ringard de service, etc. C'est le meurtre symbolique. Moi, on m'appelle souverainiste, alors que je suis gaulliste et républicain. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que le mot souverainiste fait royaliste, donc un peu ringard, et qu'il n'est pas compris par 99% des Français. C'est pas innocent. Quand on me veut du mal, on met souverainiste. Les gens qui m'aiment bien, ils mettent gaulliste. C'est pas du tout innocent. Et donc, il y a la volonté de marginaliser, de caricaturer ceux qui pensent différemment. C'est clair. Bon, ben, les auditeurs qui m'entendent découvriront qui je suis. Je ne renie pas d'ailleurs que je suis un homme de droite par certains côtés. Pour autant, je pense être beaucoup plus à gauche que Dominique Strauss-Kahn ou Ségolène Royal sur d'autres points. Voilà. Bon, ben, ils me prennent tel que je suis. Et si je développe Debout la République, ça viendra avec le temps, on verra que je ne suis pas celui qu'on veut faire croire. D'ailleurs, De Gaulle était perçu comme maurassien, ça ne l'a pas empêché de sauver la France. Donc j'ai encore de la marge devant moi, même si je ne me prends pas, rassurez-vous, pour De Gaulle.
Est-ce qu'à terme, il y a des gens qui sont actuellement, disons, proches de Nicolas Sarkozy, qui pourraient retourner Kazakh, on pourrait presque dire, et revenir vers des pensées qui seraient plus...
Bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein de parlementaires UMP qui ont suivi comme des moutons Nicolas Sarkozy, parce qu'elle allait gagner. Et puis ils en suivront d'autres plus tard. Bon. Mais tout ça n'est pas très intéressant. Le système actuel français est plein de moutons. Voilà. Donc ne nous occupons pas des moutons, du troupeau. Occupons-nous des Français qui, eux, ne sont pas des moutons. Ils sont des êtres libres. Donc j'ai beaucoup plus confiance dans le peuple français que dans ses élites. C'est pas pour faire de l'anti-élitisme primaire. C'est parce que c'est insupportable. C'est insupportable de voir les gens qui souffrent quand des élites s'en mettent plein la poche et finalement elles sont déjà passées un pied dans la mondialisation heureuse, ce que j'appelle. C'est vrai que moi je n'en fais pas partie, je ne suis pas jaloux du tout, croyez-moi. Mais je comprends très bien que des gens qui ont des stock options de 3 millions d'euros, 4 millions, 5 millions, qui passent leur week-end dans toutes les capitales occidentales ou l'autre, qui viennent en France uniquement pour se faire soigner par le service public parce qu'il est efficace et moins cher, ou qui viennent sur les plages françaises pendant les vacances, trouvent cette société très agréable pour eux. Simplement, cette société, elle est exactement comme la cour de Versailles en 1787. Elle est extrêmement fragile parce que de l'autre côté, il y a la misère. Et que vous ne pouvez pas avoir des basses pressions et des hautes pressions sans avoir un orage. C'est tout. Et qu'il y a un minimum de décence. Voilà. Et que le monde tel qu'il évolue, avec d'un côté des gens de plus en plus miséreux et de l'autre des gens de plus en plus riches, ne peut pas continuer comme ça. C'est tout. Donc moi, je crois qu'il y a une mathématique des fluides évidente. Ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que d'abord, ça nuit à l'économie mondiale. L'économie mondiale, Keynes l'aurait dit le premier, il y a besoin de la demande. Si les ouvriers n'ont pas de boulot, comment ils vont consommer ? Je veux dire, le système arrive à sa perte. Donc il faut bien à un moment donné que l'on invente une mondialisation différente. C'est tellement devant nous. Alors d'ailleurs, quand il s'agit des pingouins de l'Antarctique, tout le monde se mobilise. Mais quand il s'agit des hommes et des femmes qui travaillent 18 heures par semaine en Inde ou 20 heures et que les enfants de 10 ans travaillent, personne ne s'en occupe. Mais alors là, dès qu'il s'agit de l'environnement, tout le monde s'en occupe. C'est la même problématique d'ailleurs. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on défend davantage les pingouins que les hommes et les femmes. Or, je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre l'environnement, bien évidemment. Mais je dis que c'est la même problématique. Est-ce qu'on peut continuer une mondialisation fondée sur le nivellement permanent vers le bas? Parce que ça n'a rien à voir avec le libre-échange. Et je renvoie aux théories de Maurice Allais, seul prix Nobel d'économie française qui est interdit de parole en France. Interdit de parole. Maurice Allais. Pourquoi? Parce qu'il dit que le libre-échange, ce n'est pas le libre-échange déloyal. Que les pays peuvent commercer entre eux et que c'est positif pour la prospérité générale quand il y a un niveau égal ou quasiment égal de prospérité. Et que sinon, on a inventé les droits de douane qui permettent de mettre en place des transitions. Or là, nous avons un libre-échange déloyal avec deux mastodontes qui sont l'Inde et la Chine. Chacun d'un milliard d'habitants et plus. Ça veut dire qu'on a un libre-échange déloyal avec des différences de niveau de 1 à 100. 1 à 100 et qui de surcroît s'aggrave. Je recommande à nos auditeurs la lecture d'un livre qui s'appelait de Philippe Cohen sur la Chine. Je ne sais plus quel est le titre. Qui est récemment paru et qui explique très bien, et moi j'ai été en Chine cet été pour voir, qui explique très bien comment la Chine est en recul social, contrairement à tout ce qu'on veut nous dire. Comment les écoles sont fermées, comment la santé recule. Alors il y a 200 millions de Chinois qui s'en sortent et qui s'en sortiront, mais il y en a 1 milliard qui sont en train de crever, avec une destruction de l'environnement colossale. Mais ça, personne ne veut le dire. Moi, j'y étais pour voir. Il faut y aller pour comprendre. Mais comme il revenait de Chine ou du RSS sous Lénine et sous Mao en disant que la Chine, c'est merveilleux et l'URSS, c'est magnifique, eh bien, nous avons aujourd'hui toutes les personnes qui reviennent de Chine en disant que c'est le paradis pour demain. Eh bien, non. On va à la catastrophe, là aussi. Donc, vous voyez qu'il faudra bien réagir et reconstruire un monde solide. Et moi, je suis confiant dans l'humanité, il y aura aussi des bouleversements qui permettront de recréer ce monde.
C'est cette utilisation que vous faites du mot mondialisation qui parfois m'étonne.
Mm-hmm. Parce que... Il y a des côtés positifs aussi à la mondialisation. C'est ça que vous voulez dire?
Moi, j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse.
Mais... Non, mais il y a aussi des côtés... La mondialisation, c'est un fait. Par exemple, Internet... L'économie numérique, les transports faciles, ça c'est un fait. Et il y a des côtés positifs, faut pas non plus voir que les côtés négatifs. Simplement, je dis qu'aujourd'hui la mondialisation vire vers la clochardisation. Alors qu'elle a aussi des côtés positifs. Donc moi je vois pas la mondialisation simplement comme un drame. Il y a les deux côtés, simplement le côté noir l'emporte aujourd'hui sur le côté blanc de plus en plus parce qu'il y a un enchaînement cumulatif du marché absolument fou. Voilà. Pardon, je vous ai interrompu dans votre question.
Oui, on vous dirait probablement que, en même temps, c'est bien la mondialisation et c'est surtout bien que ça finisse par niveler les nations.
Ah oui, il y a ça. Oui, mais moi, je ne vois pas un monde où tout le monde serait pareil, habillé pareil, mangeant pareil. Pour moi, ce ne serait pas le monde. Parce que la diversité du monde, c'est sa richesse. Donc ça, ce sont des... j'ai jamais entendu les gens se réjouir que le monde soit identique. Mais vous voyagez aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel centre commercial, c'est les mêmes boutiques, c'est les mêmes, c'est la même aliénation générale, faut être clair. Mais en même temps, c'est aussi le même échange culturel, qui est aussi extraordinaire. Donc il y a une uniformisation générale. Il faut veiller à ce qu'il y ait une diversité. Voilà. D'où l'importance des langues, de la langue française. Je suis un des rares à essayer de défendre notre langue. Le Parlement a voté de manière scandaleuse le protocole de Londres. Qui va encore une fois niveler les brevets en anglais. Il y a une défense de la langue, il y a de la diversité, le monde est une richesse incroyable, et ben il faut le protéger, il faut le défendre. Donc je dirais que l'enjeu de demain, c'est je vous dis, de garder l'identité de la nation et la démocratie nationale, de construire une Europe des peuples, des coopérations, et de sauver la planète, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Parce que sinon, si on ne sauve pas la planète, il n'y aura pas l'Europe et il n'y aura pas la France. Mais s'il n'y a plus la France, ben je pense que la planète sera différente. C'est très prétentieux, peut-être. Mais parce que la France, ce n'est pas un pays comme les autres. Voilà. Non, c'est vrai. Pour moi, ce n'est pas un pays comme les autres. Voilà. Ça, c'est mon côté un peu patriote. Il ne faut pas m'en vouloir.
Il est 10.
Eh bien, il est 10. Debout-la-république.com, il y a tous nos textes et tous nos livres. Ben, je le dis parce qu'il faut faire sa pub. Hein. Voilà, merci.
Et oui, c'était Des sous et des hommes en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan. Le livre de Philippe Cohen auquel il fait allusion lors de l'entretien s'intitule « La Chine sera-t-elle notre cauchemar ?» et il est publié aux éditions Mille et Une Nuits. Je ne peux que vous en conseiller la lecture moi aussi. Tout au long de l'entretien, j'ai été fort étonnée par les propos de Nicolas Dupont-Aignan. Peut-être vous souvenez-vous de la semaine dernière, juste à la fin de l'entretien, il disait « Je vous dis ce que j'ai sur le cœur ». Eh bien, c'est cette impression d'honnêteté que d'aucuns qualifieraient de naïve pour la stigmatiser que j'ai eue tout au long de ce long entretien qu'il m'a accordé. Quand il parlait des difficultés des simples gens, c'était bien avec son cœur d'homme, ça se sentait, et pas par calcul politique comme d'aucuns. Quand bien même vous ne seriez pas de droite, je ne peux que vous conseiller la lecture de son livre « Le coup d'État simplifié » publié aux éditions du Rocher, qui est fort intéressant au-delà du caractère circonstanciel de certains propos tenus. Voilà, la semaine prochaine, nous retrouverons Lee Mornock, membre du Parti Socialiste et de la boîte à penser La Forge, pour la suite du long entretien qu'il m'avait accordé. À la semaine prochaine !